Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose en guise d'enseignement aujourd'hui de répondre à une question que l'un des groupes m'a posée. Qu'est-ce que cela veut dire être pauvre de cœur ? Pauvre de cœur, c'est une formule qui renvoie aux béatitudes au chapitre 5 de saint Matthieu. C'est la première béatitude énoncée par Jésus. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Littéralement, la formule grecque que nous traduisons par « pauvre de cœur » signifie « pauvre par l'esprit ». Le terme « esprit » n'est pas un terme qui renvoie à l'intellect, mais à l'esprit comme souffle, comme on dira « esprit saint », ce sera littéralement le souffle saint. Le souffle, c'est la capacité vitale, c'est le souffle de la vie qui traverse l'homme. Quand ce souffle s'épuise, l'homme cesse d'être un être vivant, il meurt. Mais bon, quand on a dit ça, l'expression ne devient pas très claire du premier coup. Alors on va procéder par étapes et commencer par dire ce que ça n'est pas. Voilà, quand on dit pauvre de cœur, donc ça ne signifie pas les simples d'esprit, ça ne signifie pas ceux qui auraient des déficiences mentales. Pauvre de cœur, ça ne signifie pas simplement pauvre tout court. Cela ne désigne pas les démunis de toute possession matérielle, cela ne désigne pas simplement les miséreux. Utiliser l'expression pauvre de cœur ou pauvre par l'esprit va renvoyer aussi à une disposition spirituelle. Pas simplement une absence de possession matérielle, mais une disposition spirituelle, une disposition du cœur, une disposition de notre façon de vivre. En effet, il n'y a pas identité entre dénuement misère et entrée dans le royaume. On peut être pauvre démuni et être rempli d'envie, être rempli de jalousie, être rempli même d'avarice en voulant conserver à tout prix ce que l'on possède, sans avoir aucun esprit de générosité. Cette formule de pauvre de cœur ou pauvre par l'esprit renvoie à une réalité connue dans l'Ancien Testament. Elle renvoie à ce que l'on appelait les pauvres du Seigneur, ou en hébreu, les anawim. Les anawim, les pauvres du Seigneur ou les petits du Seigneur, ne sont pas simplement fragiles par leur peu de possessions, ils sont aussi doux et ils sont aussi humbles. Ce n'est donc pas simplement une qualification matérielle, mais aussi une qualification de leur qualité de cœur, douceur, humilité. Ils sont ceux qui ont pris conscience de leur misère personnelle sur le plan de la religion, de leur capacité à être fidèles à l'alliance du Seigneur. Ils sont ceux qui ont pris conscience du besoin du secours de Dieu tout au long de leur vie, non pas seulement ponctuellement, à tel ou tel moment particulier, mais qu'ils ont besoin du secours du Seigneur, de l'alliance du Seigneur, à chaque moment de leur vie. Le Seigneur est le compagnon de leur vie, comme on pourrait dire que l'oxygène est le compagnon de notre respiration. Sans oxygène, nous ne pouvons pas respirer ou nous étouffons. Les anawim ont compris que sans le secours du Seigneur, on ne pouvait pas vivre, on ne pouvait pas vivre dans l'Alliance, on ne pouvait pas demeurer fidèle à l'Alliance. Ils sont donc loin d'une attitude de suffisance. Cette suffisance que Jésus régulièrement dénonce du côté des pharisiens, qui s'estiment justes, qui sont fiers de leur application de la loi et qui, d'une certaine manière, ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin du secours du Seigneur, ils font déjà tout très bien. Rappelez-vous en saint Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14, la parabole du pharisien et du publicain, le pharisien qui vient prier au temple en disant « Mais Seigneur, je te rends grâce parce que je suis vraiment fidèle, je fais les choses bien, je paie tous les impôts et je suis pas comme ce publicain là au fond. » Au contraire, le publicain se frappe la poitrine en disant « Seigneur, mais j'ai péché devant toi, je mérite même pas de pouvoir entrer dans ton temple, prends pitié de moi. » Et Jésus conclut en disant que de ces deux, c'est le publicain, celui qui s'est présenté comme un pauvre du Seigneur, qui rentre chez lui justifié, parce que justement, il a demandé, il s'est ouvert, il a pris conscience qu'il avait besoin du secours de Dieu. Ces Anaouim, ces pauvres du Seigneur, d'une certaine manière se rapprochaient ainsi des enfants qui ont besoin justement du secours, du soin de leurs parents, et le royaume leur appartient parce que Dieu prend soin de ses enfants. Mais tâchons maintenant de regarder de manière un peu plus concrète comment se vit cette pauvreté de cœur, cette pauvreté par l'esprit. Nous pouvons en regarder la manière et nous pouvons aussi en regarder le moyen. La manière. La manière dont on exerce notre possession sur les choses. Elle est sobriété, mais pas misère. La sobriété permet de disposer des choses qui sont nécessaires à la vie, mais sans immobiliser des richesses que nous ne saurions utiliser. Elle est aussi soin de ce qui est remis à notre garde et évite donc le gaspillage. Elle exerce une propriété qui est respectueuse de la destination universelle des biens. Cela veut dire qu'on exerce à la fois une propriété sur ce qui nous a été confié, sur ce que nous avons gagné par notre travail, mais aussi que nous savons que les biens dont nous disposons doivent aussi pouvoir être utilisés, doivent être mis à la disposition de ceux qui en auraient besoin, qui ne sont pas en mesure de les avoir par eux-mêmes. Le pauvre par l'esprit prête volontiers, et d'ailleurs il n'hésite pas non plus à demander ce dont il aurait besoin pour qu'on le lui prête. Il ne cherche pas à tout posséder au cas où. Il sait s'en remettre à l'aide des autres. Cela implique le souci et la capacité de prendre soin du bien d'autrui. Il y a une offense à la pauvreté en ne prenant pas soin du bien qui nous a été confié et du bien qui nous a été prêté. Il doit être rendu en bon état. Voilà quelques éléments caractéristiques de la manière dont est vécue cette pauvreté de cœur. Maintenant, regardons le moyen par lequel elle est vécue. Cette pauvreté par l'esprit, cette pauvreté de cœur, est en fait une conséquence de l'action de l'Esprit-Saint, est en fait un fruit de l'Esprit-Saint. Elle se développe chez ceux qui ont appris à connaître Dieu comme providence. On voit dans l'Ancien Testament comment Dieu apprenait à son peuple à le connaître comme Dieu provident. Un exemple, les prêtres et les lévites n'avaient pas d'héritage sur la terre quand le partage de la terre avait été fait pour les tribus d'Israël. La tribu de Lévi, qui est la tribu des prêtres et des lévites, n'a pas reçu d'héritage de la terre, n'a pas reçu de portion de terre en héritage. Ils ne vivaient que parce qu'il leur était donné une part des sacrifices que le peuple offrait au Seigneur. Et la tribu de Lévi, les prêtres et les lévites, découvraient que le Seigneur lui-même était leur part d'héritage. Ils ont dû apprendre à s'en remettre à la providence de Dieu qui prend soin des petits. Et tout le peuple a appris aussi de cette manière que Dieu appelle l'homme, appelle les hommes de son peuple à collaborer à ce soin des petits, à collaborer, à prendre soin des petits du Seigneur, des pauvres du Seigneur. Dieu prend soin et l'homme est appelé à prendre soin en collaboration avec Dieu, et c'est ainsi que l'homme apprend à vivre comme Dieu. Nous voyons dans l'Évangile que c'est ainsi que Jésus a vécu avec ses disciples. Il vivait sobrement, frugalement, en s'en remettant à la providence. Repensons à ce moment où Jésus envoie ses disciples sans deuxième tunique, sans bourse, sans bâton. À d'autres moments, ils s'en remettent à la générosité aussi de ceux qui les accompagnent. Pensez à ces femmes dont on nous dit qu'elles suivaient Jésus depuis la Galilée et l'assistaient avec ses apôtres de leurs biens. Ce sont les versets 1 à 3 du chapitre 8 de Saint Luc. nous voyons que les disciples avaient une bourse commune et que, à certains moments, cette bourse pouvait aussi servir pour soutenir des pauvres. Rappelez-vous comment dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 13, au moment où Judas sort pour trahir Jésus, les autres pensent qu'il allait donner quelque chose aux pauvres, qu'il sortait pour aller donner quelque chose aux pauvres, lui qui tenait la bourse commune. Dans la tradition de l'Église, nous voyons que certains ont reçu un appel à un signe de pauvreté plus radical. Ce sont les ordres mendiants, comme le sont les franciscains par exemple. Mais on se souviendra que saint François avait dû interdire à ses frères de donner leur bure, il fallait qu'ils la conservassent. C'était aussi la communauté de Jérusalem, où tous les croyants ensemble mettaient tout en commun, vendant leurs propriétés et leurs biens, et en partageaient le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Mais cette façon de vivre de la communauté de Jérusalem a été un signe pour les autres communautés, quoiqu'elles ne vécussent pas de la même façon. Les autres communautés chrétiennes ne mettaient pas tout en commun, ne vendaient pas tous leurs biens. Mais la communauté de Jérusalem et les ordres mendiants rappelaient ce signe du Seigneur provident. En définitive, le pauvre par l'esprit, c'est le Christ lui-même. Il a pleinement confiance en la providence du Père, si bien qu'il se préoccupe d'abord de la construction du royaume de Dieu, et non de se prémunir de tous les accrocs de la vie en faisant des réserves. Il offre volontiers son aide et n'hésite pas non plus à demander l'aide de ses frères. Il voit dans cette disponibilité à l'échange une image de la communion divine, du partage des biens divins. Je vous souhaite de bons échanges.